Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Tous, accent d'Europe comme le reste de l'antenne aujourd'hui consacré à la crise qui secoue l'économie mondiale. Et en Europe, c'est une crise politique qui vient se superposer à la récession. Réunis hier en sommet, en visioconférence, les 27 ont été incapables de s'entendre sur un budget et sur le plan de relance de 750 milliards d'euros dont il dépend. On en parle beaucoup dans l'édition de notre partenaire, le magazine Courrier International cette semaine. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Frédéric.
La crise a été provoquée par le blocage de deux enfants terribles de l'UE, la Hongrie et la Pologne. Et les éditorialistes de ces deux pays nous expliquent leur vision de la crise.
Absolument, les deux pays ont dit non, un non franc à l'adoption du budget pluriannuel de l'UE et du plan de relance spécial Covid qui lui est adossé. La raison de ce double veto, leur refus d'un mécanisme liant le versement des subventions européennes au respect de l'état de droit. En juillet, au moment de la négociation du budget et du plan de relance par les 27, 1750 milliards d'euros au total, l'idée d'un tel mécanisme était déjà dans les tuyaux, mais ses contours avaient été laissés volontairement flous. C'est le durcissement des critères impulsés par les députés européens ces dernières semaines qui a provoqué la colère de la Hongrie et de la Pologne, deux pays régulièrement accusés de saper l'indépendance de la justice et le respect des droits fondamentaux. En fait, les deux États d'Europe centrale dénoncent une manœuvre politique. C'est ce que nous dit le site Feu Politica à Varsovie. Nous sommes à un tournant dans l'histoire de l'Europe, estime le portail proche du gouvernement. Ce mécanisme de conditionnalité qui suspendrait les versements en cas d'entorse à l'état de droit est un moyen de réduire la souveraineté de la Pologne. De son côté, l'hebdomadaire hongrois de référence HVG déplore le fait que Bruxelles n'ait pas pris au sérieux Viktor Orban. Comme le rappelle le magazine, le premier ministre hongrois brandissait depuis un moment déjà la menace d'un veto. Reste à voir désormais combien de temps les Hongrois et les Polonais persisteront, eux qui comptent beaucoup sur les fonds européens. Quoi qu'il arrive, conclut HVG, ce blocage est l'un des jours les plus tristes de l'UE. Nous assistons à la faillite de la solidarité, de l'esprit de construction et de communauté, selon l'hebdomadaire. La faillite de la solidarité, c'est sans doute le seul point sur lequel les 27 sont d'accord.
Les États européens, notamment du Sud, comptent beaucoup sur le plan de relance pour redresser leur économie. Mais le salut pourrait-il venir d'abord du futur vaccin, Sacha ?
Eh bien, c'est la question que se pose la presse cette semaine, Frédéric. Première conséquence sur le système économique de l'annonce de l'imminence d'un vaccin efficace, les places boursières se sont littéralement envolées ces derniers jours. Comme le note The Guardian, les actions dans le monde ont atteint des niveaux records après que les entreprises Pfizer et BioNTech ont annoncé que leur vaccin contre le Covid serait efficace à 90%. Mais pour ce qui est de l'économie réelle, eh bien, les effets y seront beaucoup moins spectaculaires. Dans l'immédiat, selon les économistes, nuance de Wall Street Journal, il faudra du temps, beaucoup de temps, à l'économie européenne pour guérir du coût historique porté aux emplois, aux investissements et aux entreprises. Et c'est d'abord une question logistique. Il faudra sans doute des mois avant que le vaccin ne soit administré à suffisamment de monde pour alléger les mesures de confinement. Pendant ce temps, nombre de secteurs continueront à souffrir de la baisse de la demande, depuis les services jusqu'au tourisme, en passant par la culture et le divertissement. La nouvelle d'un vaccin n'a donc pas réduit les attentes quant au temps qu'il faudra aux économies européennes pour retrouver leur niveau d'avant la pandémie, résume le Wall Street Journal, qui penche pour un retour à la normale en 2022. En revanche, en Allemagne, on évoque tout de même un petit effet coup de pouce attribué au vaccin. Comme l'explique le Financial Times, le vaccin va déclencher un état d'esprit positif au sein des entreprises allemandes qui pourrait se traduire par un rebond de l'activité commerciale dès 2021.
Et pendant ce temps, il y a les oubliés de l'économie, ceux qui peinent à boucler les fins de mois, quelle que soit la conjoncture. On va parler des agents d'entretien en Italie, en première ligne avec le personnel hospitalier dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 Et ils espèrent bien, cette fois, obtenir des augmentations de salaire.
Oui, ce sont les agents d'entretien italiens, en première ligne avec le personnel hospitalier dans la lutte contre la pandémie. Leur travail commence quand les autres dorment encore et peut se poursuivre jusqu'en fin d'après-midi. 70% d'entre eux sont des femmes qui gagnent très peu d'argent. Et si tous décidaient de s'arrêter, c'est le pays tout entier qui se bloquerait. C'est cette armée d'invisibles à laquelle l'Espresso rend hommage cette semaine. Un contingent de 600 000 personnes qui travaillent jour après jour au nettoyage des espaces de vie et de travail du pays. Un rempart invisible, souligne le magazine romain, contre la propagation de l'épidémie. Mais faute d'être célébré comme le personnel hospitalier, les agents exigent désormais une rémunération plus juste. Personne ne gratifie notre travail et notre courage, a récemment déploré Francesco, l'un d'eux, sur Facebook. Ces dernières semaines, les syndicats d'agents d'entretien se sont donc organisés pour exiger davantage de garanties et une augmentation des salaires. Des demandes qui les ont d'ailleurs poussés à manifester par Zoom le 21 octobre dernier, rappelle l'Espresso. Il faut dire que le salaire moyen pour ces travailleurs est de 667 euros par mois dans la péninsule. Une rémunération très basse donc, qui plus est au regard des risques encourus en cette période. Et encore, faut-il être salarié ? De nombreux agents d'entretien sont payés au noir ou sont auto-entrepreneurs et touchent encore moins d'argent. Une situation intenable que les syndicalistes de la catégorie veulent à tout prix corriger, faute de quoi les agents d'entretien pourraient recourir à des moyens plus forts que la manifestation virtuelle. Une grève nationale bel et bien réelle cette fois.
Merci Sacha Mitchell. Tous ces articles sont à retrouver en ligne sur le site de Courrier International et dans la dernière édition en kiosque. You know, sometimes we're not prepared for adversity, for adversity, for adversity, for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it. Et les enfants britanniques auront bien un repas gratuit pendant les vacances de Noël, malgré la crise. C'est le résultat d'un curieux bras de fer qui a opposé ces dernières semaines le footballeur Marcus Rashford, attaquant vedette de Manchester United, et le Premier ministre Boris Johnson. Le premier a réussi à faire entrer un peu plus de social dans le programme du gouvernement. À Londres, Marie Billon.
Les métaphores footballistiques pour décrire les victoires de Marcus Rashford face au gouvernement britannique sont nombreuses. Mais l'histoire est la même. En Angleterre, les enfants les plus pauvres bénéficient de repas gratuits quand ils sont à l'école, mais pas pendant les vacances. Lorsque les établissements scolaires ont fermé pendant le premier confinement, le gouvernement a continué à assurer un repas gratuit à ses enfants, y compris par le biais d'initiatives locales. Mais pour les vacances d'été, rien n'était prévu. Marcus Rashford s'est mobilisé. Les enfants les plus défavorisés ont donc été aidés. Lors d'une interview à la BBC, le footballeur a expliqué pourquoi cela lui tenait tant à cœur.
Ce que toutes ces familles traversent aujourd'hui, je l'ai vécu. J'ai grandi avec ce système de repas gratuit. Ma mère était seule avec 5 enfants dans la maison. Elle faisait pour le mieux. Je me souviens qu'on allait dans un magasin où tout était à moins d'une livre sterling et on planifiait pour la semaine. Un yaourt par jour, par exemple. Elle a fait de son mieux, mais certaines familles ne s'en sortent pas. Et tout cela arrive alors que les enfants devraient se concentrer sur leurs devoirs. Maintenant que j'en suis là, je veux aider ceux qui sont en difficulté.
À l'automne, le même problème s'est posé. Que faire pendant les vacances de la Toussaint ? Le gouvernement comptait bien reprendre le système précédent, arrêter les repas pendant les congés. Malgré un nouvel effort, Marcus Rashford n'a cette fois pas eu gain de cause. Aucun repas gratuit n'a été distribué pendant les vacances d'octobre en Angleterre, car l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord ont décidé de continuer à aider les enfants défavorisés pendant la même période. Face à l'inaction des services sociaux, le footballeur a donc lancé sa propre initiative, sa task force. Faisant appel à l'industrie agroalimentaire, Marcus Rashford a aidé à distribuer des repas gratuits pendant la Toussaint. Début novembre, alors que toute l'attention du Royaume-Uni était tournée vers les résultats de l'élection américaine, Boris Johnson a été contraint d'admettre sa défaite sur ce terrain très politique. Le Premier ministre a appelé le footballeur pour lui dire qu'il avait raison. Le gouvernement va bien distribuer les repas gratuits pendant les vacances de Noël.
Une récession historique avec une économie en baisse de 7,7% sur l'ensemble de l'UE. Voilà les prévisions. Et dans ce paysage de désolation, l'Espagne devrait détenir le triste record de la pire récession annoncée. Bonjour Élise Gazangel, vous êtes notre correspondante à Barcelone. Les chiffres sont bien catastrophiques.
En effet, il y a des records dont l'Espagne se passerait bien. Le pays s'attend à la récession la plus importante d'Europe à la fin de l'année. C'est en tout cas ce qu'annonce le Fonds monétaire international, le FMI. Selon ses dernières estimations, l'Espagne doit s'attendre à une chute de 12,8% de son PIB en 2020. Une catastrophe économique qui s'explique notamment par l'effondrement du tourisme. Rappelons-le, c'est 12% de son économie, 13% de ses emplois directs. Mais c'est aussi un secteur qui fait vivre indirectement de nombreux services et sur lequel reposent presque entièrement certaines régions.
Et en Catalogne, une des régions les plus riches du pays, qui représente 19% du PIB espagnol. On a bien sûr imaginé des garde-fous, mais on peine à les mettre en œuvre, Lise.
Eh bien ici, le gouvernement catalan enchaîne même les grosses erreurs quant à la gestion de ses aides économiques. La semaine dernière d'abord, avec un site internet dédié aux auto-entrepreneurs. Problème, la région ne s'attendait pas à un si grand nombre de demandes. Résultat, le site n'a pas tenu et les fonds ont été épuisés en moins de 48 heures. La Catalogne reconnaît son échec et affirme que de nouvelles aides seront prochainement débloquées. Et puis ce mercredi soir, quelques heures avant la mise en place d'un nouveau site, cette fois pour le secteur culturel, l'exécutif régional a paralysé le système pour le repenser et trouver un nouveau mécanisme et ainsi éviter un nouvel échec. Les autorités semblent avoir sous-évalué l'ampleur de cette crise.
Si bien que la crise sociale est déjà bel et bien visible en Espagne.
Malheureusement, oui, les banques alimentaires sont débordées et les longues files d'attente qui se forment devant sont déjà appelées ici las colas del hambre, les files d'attente de la faim. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon le coordinateur de la Croix-Rouge, 75% de ceux qui réclament des vivres sont de nouveaux usagers. Quant à la pauvreté infantile, qui situait déjà l'Espagne en troisième position européenne derrière la Roumanie et la Bulgarie, l'ONG Save the Children prévoit que l'Espagne termine l'année 2020 avec un tiers de ses enfants en situation de pauvreté.
Merci Élise Gazangel à Barcelone. Et parce que son économie repose aussi énormément sur le tourisme, la Grèce devrait être un des pays qui souffrira le plus de la récession, une douche froide, alors que le pays commençait à peine à se relever de la crise de la dette et à attirer les investisseurs étrangers. Le chômage est reparti à la hausse et pourra atteindre 20% à la fin de l'année. Pour les artistes qui, pour la plupart, n'ont pas de statut professionnel, les prochains mois vont ressembler à un cauchemar. C'est le reportage à Athènes de Joël Bronner.
Début mai, à Athènes, au sortir du premier confinement, de nombreux représentants de la famille des artistes manifestent devant la Voulie, le Parlement grec. Plusieurs dizaines d'entre eux tiennent ce jour-là une longue corde par laquelle ils sont tous reliés. Ceux qui n'étaient pas sous contrat au moment où la crise sanitaire a éclaté et engendré la fermeture des lieux de culture n'ont alors bénéficié d'aucune aide de l'État. À l'image, au sein de cette vaste toile, de Moreau, 28 ans, comédienne de théâtre.
Nous tenons cette corde pour souligner que nous sommes tous connectés, mais aussi que nous marchons sur un fil et que le pas suivant est toujours incertain. Tous les artistes, acteurs, danseurs, musiciens, nous sommes venus défendre nos droits. Avec la pandémie, le chômage frappe fort. Les comédiens comme moi perdons beaucoup d'argent et nous souhaitons maintenant que les choses s'améliorent.
Parmi ces funambules du monde de l'art, comme les décrit l'actrice, se trouve aussi le petit chaperon rouge, une marionnette géante bien connue des Grecs, car elle a déjà participé à plusieurs manifestations au cours de la longue crise économique qui a frappé le pays. Et celui qui fait mouvoir son visage, en l'occurrence menaçant, c'est Kostadis Mizaras. En ce mois de novembre, à l'heure du second confinement, ce marionnettiste et comédien de 42 ans, hors d'Athènes, revient par Skype sur la situation sociale délicate des artistes en Grèce.
Pour nous, c'est un désastre. Moi, je n'ai pas travaillé pendant 8 mois. Vraiment, je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas gagné de sous de mon travail il y a 8 mois. Vraiment, pas un parce que quelqu'un me devrait d'argent. Non, non, rien. J'ai rien fait.
Retour en province, colocation, une partie de ses amis artistes essaye aussi de s'en sortir à l'aide de petits boulots. Depuis 8 mois, Kostadis Mizaras, qui a lui un statut officiel d'artiste équivalent à celui d'auto-entrepreneur, a touché au total près de 1500 euros d'aide de l'État, alors que dans le même temps, ses cotisations à la sécurité sociale lui ont coûté davantage, quelques 100 euros de plus.
Quand tu as un ministre de culture qui te dit « mais le marché va se autogérer », c'est un peu dur à comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire. Parce que autogérer, ça veut dire que si tu ne trouves pas de boulot, tu dois changer de boulot. Si c'est ça le cas, pourquoi on ne le fait pas ça pour les banques? Si les banques ne peuvent pas exister, pourquoi on ne les laisse pas arrêter de marcher? Pourquoi on les soutient tout le temps? Pourquoi on a soutenu les compagnies d'avions? Je ne comprends pas.
Alors pour obtenir davantage de soutien, les artistes grecs que la crise précédente a déjà habitués aux difficultés économiques ont compté avant tout sur eux-mêmes. À l'image du succès du mouvement spontané, Support Art Workers, qui a permis à une partie des artistes exclus du mécanisme de soutien étatique, à l'image de ceux qui n'étaient pas sous contrat pendant le confinement, d'être tout de même reconnus comme artistes et de toucher à minima quelques centaines d'euros de dédommagement.
Gardez vos yeux fermés et écoutez.
C'est vendredi et pour notre chronique musique, on retrouve Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Et malgré la crise, il y a quelques bonnes nouvelles, comme le retour du groupe britannique Gorillaz.
20 ans après ses débuts, le groupe cartoonesque Gorillaz publie son 7e album, toujours dirigé de main de maître par le musicien anglais Damon Albarn et son complice, le dessinateur Jamie Hewlett, et une constante, au fil de ces 2 décennies très riches, la présence d'un nombre impressionnant d'invités venant de générations et d'horizons très différents. Song Machine ne fait pas exception et convie pêle-mêle des grands noms de l'histoire du rock, comme Elton John ou Robert Smith, le chanteur de Cure, mais aussi une pléiade de jeunes talents issus du hip-hop et du R&B, comme la sud-africaine Moonchild Sanelly, qui enchante le titre With Love to an Ex.
Simply 'cause I just dreamt too much. Black shift, but I am all blue now. It's the start, but I've done blew up. I haven't done none, yeah, the travel stuff. Light white sands and the waves too far. They said no, I said that's too tough. Went to Google, bomb they system down. Ex-niggas blowing up my DM. Wanna meet for lunch?
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Groslot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À très bientôt.